cours de philosophie critique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Chaudard le 2 avril 1993.
Terminons cette recherche des axiomes. C'est important de bien discerner les causes propres et les axiomes. Vous voyez, des axiomes ne peut sortir qu'une dialectique. Une idéologie. Et la confusion des axiomes et des causes propres en scolastique décadente, ça s'est fait beaucoup. Il faut bien le reconnaître. Et parce que justement, le point de vue des idées était quelque chose de primordial. Mais quand on pense que la métaphysique scolastique commençait par les transcendentaux, c'est comme ça qu'on enseignait la métaphysique, même au Saulchoir de mon temps. Commencer par les transcendentaux. Donc au fond, commencer par les idées, les rationes. Et à partir de là, on développait quelques aspects. Mais c'était les transcendentaux, donc c'était la critique. Et si on commence par la critique, on ne peut plus discerner les différences entre le point de vue des axiomes et des causes propres. Alors, on a vu les différents axiomes, comme vous n'avez pas mis de critique, je présume que vous êtes tout à fait consentant. Et il reste donc. Il reste, oui, puisque je vous ai dit, on recherche ensemble cette chose qui ne se fait pas. On a très peu fait la critique des axiomes. C'est absolument pas fait. Dans la scolastique. Et c'est pourtant nécessaire et bon. Alors, après la philosophie pratique, la philosophie spéculative, la philosophie de la nature, tout ce qui est mu par un autre, est-ce que ce n'est pas un axiome? Pour moi, je crois que c'est un axiome. L'axiome de la philosophie de la nature. Et c'est bien un axiome. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mu, vous comprenez, c'est l'état particulier d'une réalité mue. Cette réalité mue est inintelligible par elle-même en tant que mue. C'est ça que ça veut dire. Elle est mue par un autre. Et c'est ça dont on se servit comme grand principe au point de vue des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Ce qui est mu est en puissance. C'est saint Thomas du reste qui développe ça comme ça, dans la somme. Il n'hésite pas. En théologie, il a le droit de le faire, parce que le théologien se sert aussi bien des axiomes que des causes propres. Parce qu'il est soutenu, le théologien. Il est soutenu par le jugement d'existence du croyant. Donc il assume ça. Mais dès qu'on cherche la philosophie à partir de la théologie, on doit être attentif à la différence des axiomes et des causalités. Tout ce qui est mu, c'est l'état de celui qui est mu. Il est en puissance. Donc en tant qu'il est en puissance, il n'est pas. Mais le vrai ontologique n'est pas parfait en lui. Il ne peut être intelligible que par un autre. La réalité qui est mue appelle un autre au point de vue de son intelligibilité. Tout ce qui est mu par un autre, c'est absolument universel. Alors, vous voyez quand, de fait, père Dominique Dubarle, a fait un article. C'est déjà assez vieux, mais vous retrouverez la référence facilement dans le livre sur les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. En montrant que ce principe n'avait aucune valeur en science moderne. Tout ce qui est mu va un autre. Vous voyez, si je le prends comme un principe philosophique, je peux dire la nature est principe immanent d'un être physique sensible. Alors la nature est principe immanent, elle est principe, elle est cause de son mouvement. Si je prends tout ce qui est mu par un autre comme un principe, quel est ce principe? La seule intelligibilité possible, c'est du côté de la finalité. Tout ce qui est mu par un autre, par une cause qui n'est pas déterminée du reste. Si je le prends comme axiome, alors il n'y a plus aucune difficulté. Parce que je suis au niveau de l'intelligibilité. Et au niveau de l'intelligibilité, c'est vrai que ce qui est mu n'a pas d'intelligibilité propre par lui-même. Et d'intelligible que par un autre. Et alors, c'est vrai que c'est l'axiome présent à toute la philosophie de la nature. C'est pas étonnant que la science moderne ne peut pas s'en occuper. Et c'est très simple, pourquoi? Parce que elle ne cherche pas cette intelligibilité au niveau de l'être. Vous voyez, ce serait tout simplement cet axiome que le devenir n'est pas premier dans l'intelligibilité. Vous pourriez très bien traduire cet axiome de cette manière-là. Le devenir comme tel n'est jamais premier. Parce que le devenir implique la puissance. Et la puissance n'est jamais première dans l'ordre de l'intelligibilité. Sauf dans l'ordre génétique, où la potentialité peut-être première, mais dans l'ordre génétique d'une manière imparfaite. De sorte que je crois qu'il faut maintenir que tout ce qui est mu par un autre, est vraiment l'axiome de toute la philosophie de la nature. Quel est l'axiome, maintenant, de la philosophie du vivant? Vous avez cherché après, vous avez découvert. Qu'est-ce qui a découvert l'axiome de la philosophie du vivant? La philosophie du vivant est commandée par l'âme. Au point de vue philosophique, c'est la découverte de l'âme qui me permet d'avoir la philosophie du vivant. Et l'âme, principe immanent du vivant. Principe selon la forme et principe substantiel. Et en même temps, acte et fin du corps. Alors, quelle est l'intelligibilité propre du vivant? Vous découvrez l'axiome. Dire ce qu'est le premier. Qu'est-ce qui pourrait dire ça?
Le vivant est ce qui est mu de l'intérieur.
Là, vous êtes au niveau philosophie du vivant. Le vivant. vivant se meut, ça c'est la philosophie du vivant, le vivant se meut, il est mu de l'intérieur. Oui, essayez de prendre par rapport tout ce qui devient par un autre. Bon, qu'est-ce qui est? Et c'est ça qui fait comprendre comment la matière est source de dégradation. N'est-ce pas? Ça, la physique le montre bien. Le vivant est source de dégradation. La matière est source de dégradation. Alors que la vie est source de rajeunissement. Le vivant est celui qui dépasse tout le temps la dégradation. Je crois que c'est ça qu'il faut exprimer dans l'axiome. Vous voyez? Il y a dans le vivant quelque chose qui est au-delà de la dégradation. Le vivant comme tel. Comme vivant. Ne se dégrade pas. C'est pas ça le point de l'axiome. C'est dans ce sens-là qu'il faut le chercher. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sûrement, l'immanence, c'est ce qu'il dit, c'est l'immanence est présente. Alors, traduisez ça en termes d'intelligibilité pure. Tout vivant.
Tout vivant
assimile. Est-ce que là, c'est pas la constatation, tout simplement, que vous faites de l'expérience? Vous voyez? Le vivant a la capacité d'assimiler. Je veux ça, c'est parce que c'est pour que vous réfléchissiez sur le passage de la cause à l'action. C'est intéressant, on doit pouvoir le trouver. C'est pour ça qu'il faut que les deux axiomes du devenir et de la vie soient parallèles. Vous voyez ? Ne se contredisent pas, mais soient parallèles. Tout ce qui est mu par un autre, tout vivant, vous dites se meut, assimile, tout vivant se meut, ça c'est. Est-ce que c'est un axiome ? Ou est-ce que c'est un principe ? Tout ce qui est mu par un autre. Tout vivant. Et par soi. Tout. Quoi? Tout se meut par lui-même. Là, se meut par lui-même, c'est juste, il se meut par lui-même, tout vivant. Et tout vivant se meut par lui-même parce qu'il est en acte.
Et puis pour lui-même.
Oui, et pour lui-même. Il a sa finalité.
Est-ce que vous parlez de l'unité du vivant, peut-être, ce serait une perspective bien d'ordre de l'intelligibilité. Tout vivant, du fait même qu'il est vivant, a une unité.
Tout vivant a son unité. C'est pas si commode.
Est vainqueur de son milieu.
Ah, vainqueur, oui. Normands qui étaient
mouvement vital, c'est pas de prendre sa source dans le vivant et de s'y achever. Il est co-efficient de ce mouvement, mais il est aussi co-final. Donc ça
pas ce que tout vivant. Sa cause efficiente, propre, immanente. Et tout vivant parce qu'il a sa cause efficiente, propre, a sa cause finale. Donc il se meut pour lui-même. Ainsi, tout vivant. Vous voyez, je crois qu'il y a ce point de vue, peut-être par là, on pourrait comprendre la différence entre l'être et la vie. Mais quand vous prenez le point de vue de l'être, vous dites le principe de non-contradiction, puisque c'est toujours un, il ne faut pas oublier. Alors ça, c'est le moyen de le voir, le vivant.
Si vous traduisez
oublié ça. Je suis un trop petit vivant et la communauté est trop lourde pour moi. Moi, je suis un grand vivant. Je mange cette communauté. Ça me gêne pas. Je dépasse tout d'une tête. Je suis le boa de la communauté. Ça me gêne pas. Pas gênant. Et le petit vivant, il est écrasé. Alors, si chaque fois un petit de la communauté est trop lourde, tu dis, je suis un petit vivant. J'arrive pas à dépasser ce milieu. Vous diriez beaucoup moins. Parce qu'en réalité, c'est ça. Je ne peux pas supporter une communauté aussi nombreuse. C'est insupportable. Pourquoi ? Je n'arrive pas à être le boa de la communauté. Alors qu'au contraire, si je suis très bien, je suis très heureux quand on dit qu'on prend un bain de foule. C'est ça. J'ai besoin de manger tous ces petits lapins. Et je les prends. Et alors, on la dépasse. Il y a donc chez le vivant comme tel, il y a cette idée de supériorité à l'égard de l'autre, puisqu'on l'assimile. Et ceci, ça provient de la vie végétative qui assimile. La vie sensible, au contraire, c'est une assimilation intentionnelle, c'est sûr, mais c'est aussi une dépendance. Le vivant, de vie sensible et de vie passionnelle, est dépendant. Et le vivant, de vie spirituelle, l'intelligence, la volonté, au-delà du principe de non-contradiction. Puisque l'affirmation et la négation, c'est le vivant qui l'a fait. Vous voyez, l'aspect de la subjectivité transcendantale de l'intelligence. Et est-ce que cet aspect, la subjectivité transcendantale de du vivant, est-ce que ce n'est pas justement l'action du vivant? Il est au-delà de la contradiction. Au point de vue intelligibilité, puisqu'il affirme et il nie. Puisqu'il affirme et qu'il nie, il est au-delà de la contradiction. Comme vivant. Subjectivité transcendantale. Oui. Alors que, au niveau de l'être, j'ai le point de vue de la contradiction. Le vivant, comme tel, dépasse la contradiction. Alors, comment exprimer en axiome ce dépassement? C'est ce qu'on dit, c'est la victoire. Dépasser la contradiction, c'est la grande victoire du vivant spirituel. Il peut affirmer, il peut nier. Il affirme et il nie. Et en affirmant et en niant, il montre qu'il dépasse l'être et le non-être. L'être et le non-être, la division de l'être et du non-être, c'est le vivant qui fait cela. Le non-être est un être de raison. Donc c'est moi qui l'invente. Alors il y a un axiome spécial pour exprimer du côté de l'esprit ce dépassement. Et enfin, vous voyez, c'est là où on voit très bien que est-ce que chez Leibniz, quand il dit que tout ce qui est intelligible existe, est-ce que c'est pas le vivant, ça? Pour le vivant, c'est ça. Au-delà de la contradiction. Le vivant est au-delà de la contradiction. Parce que, en lui, le devenir et l'être s'identifient dans le vivant. Et c'est le propre du vivant, ça. Le vivant implique toujours être, l'exister, l'aspect substantiel du vivant. Et en même temps, il est celui qui implique toujours l'opération dans le point de vue du devenir, dans le point de vue de la croissance. Alors, il me semble qu'il faut pouvoir exprimer dans le vivant cette seulement celui qui assimile, il assimile en étant victorieux. Il assimile en dépassant toutes les divisions. Alors, c'est vrai, cette idée d'unité. Parce qu'il fait l'unité, le vivant. Et l'unité en lui et par lui. Donc, cet aspect de la subjectivité transcendantale qui caractérise le vivant comme vivant, est égocentrique. Il ramène tout à lui. Le vivant ramène tout à lui. C'est l'aspect sympathique de la vanité. Au-delà du point de vue moral, le propre du vivant, il ramène tout à lui. Alors que le propre de ce qui est mu, il est toujours à regarder l'autre. Ce qui est mu, il est dépendant de l'autre. Tout ce qui est mu est ordonné à l'autre. Oui. Ce qui est mu louche tout le temps. Et le vivant ramène tout à lui. Alors, exprimez ça du point de vue de l'intelligibilité comme le principe du vivant. Parce que s'il ramène tout à lui, il est au-delà de la contradiction. La contradiction est en dehors du vivant. Le vivant méconnaît la contradiction et est au-dessus. En raison même de cette immanence plénière du vivant. Alors, le vivant est celui qui est toujours source d'immanence. Le vivant ramène tout à lui, donc, source d'immanence substantielle. Et c'est parce qu'il est source d'immanence substantielle que le vivant, pour être source de fécondité, mais ce n'est pas la fécondité qui définit le vivant, la fécondité est une conséquence. Donc il faut, dans l'axiome, exprimer cette qualité, cette domination du vivant. Le vivant dépasse toute division, source d'immanence parfaite. Crois qu'on peut définir l'axiome propre à la vie, c'est ce dépassement de toute division. Le vivant est au-delà de toute division, comme vivant. Et ce qui explique cette immanence, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour découvrir ce principe, mais vous voyez, c'est difficile de l'exprimer. Alors, pour le moment, on peut s'arrêter là. Il faut chercher.
Quand il y a une division, ce qui est le principe de la division, c'est là, c'est le fait de.
Oui, oui.
Parce qu'on ne peut pas dire le vivant.
Est au-delà de la division, de la puissance et de l'acte.
Il donne l'acte à son objet.
Oui, c'est la subjectivité transcendantale. C'est ça donc, qui est exprimé dans la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale. Oui, dans le vivant, l'aspect subjectif est antérieur à l'aspect objectif. Et ça, c'est le propre du vivant. Alors, peut-on exprimer ça de cette manière, d'un point de vue de l'intelligibilité ? C'est pas quand je dis antérieur à toute division, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans les axiomes, c'est que les axiomes doivent pouvoir exprimer tous les anti-idéalismes. Il n'y a pas qu'une seule forme d'idéalisme. Il y a un idéalisme au niveau physique, il y a un idéalisme au niveau éthique, il y a un idéalisme au niveau artistique, il y a un idéalisme au niveau politique. Et les axiomes expriment ça, expriment ce primat de la subjectivité. justement ce qui caractérise ce vivant, c'est qu'il est source d'immanence absolue, source du primat de la subjectivité, ce qui rendrait compte de cette subjectivité transcendantale. Mais il faut aller dans ce sens-là. Alors, quand je dis justement tout ce qui est mu, tout ce qui est mu dépend d'un autre, tout vivant trouve en lui-même sa possibilité de dépassement. fait l'être intelligible. Le vivant a comme propriété d'imposer son intelligibilité. La subjectivité transcendantale. Alors, vous voyez, comme c'est intéressant. Parce que on est devant un domaine où on n'a pas précisé. Alors qu'il y a nécessairement au niveau de la philosophie du vivant, il y a un axiome. Et encore une fois, je crois qu'au point de vue philosophie du vivant, il y a trois axiomes et trois degrés de vie. Oui, c'est sûr, le vivant. Mais c'est en trouvant les trois qu'on trouve l'un. Il y a une espèce d'unification par la diversité, et la diversité est plus proche. Et donc c'est la qualité différente des trois qui permet de trouver l'un. Ah non, il n'y a pas d'action, mon Dieu. Je peux pas. Vous auriez dit, hein, tout ce qui est divin est parfaitement en acte. Et donc, il ne peut être qu'unique. C'est en thèse, vous auriez dit, en théologie naturelle, y a-t-il un action dès que tu découvres Dieu? C'est justement que Dieu est la suppression de l'action. Le divin supprime le divin, l'action est intolérable pour le divin. Ça, vous pouvez dire ça. Vous voyez ? Donc, c'est la suppression de l'action. Le divin est acte pur. Si le divin est acte pur, il supprime l'action. Parce qu'il supprime la distinction entre l'intelligible et ce qui est. C'est le propre de Dieu, ça. Il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Tandis qu'en dehors de Dieu, et pour nous partout, il y a une intentionnalité. Or, ce qui est premier dans l'ordre de l'intentionnalité, c'est l'action. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intentionnalité, au niveau du vivant, me donne l'action du vivant. Et dès que j'entre dans la zone du divin, si je vous dis, dès que je suis au niveau du divin, l'action disparaît. Dieu est. Il ne peut pas ne pas être. Alors ça, c'est le divin. Il ne peut pas ne pas être. Alors vous pourriez dire ça. Mais c'est plus un action. C'est la négation de l'action.
La question, c'était plutôt est-ce que l'axiome qu'on trouve en philosophie du vivant doit pouvoir s'appliquer aussi à Dieu comme vivant?
Non, puisque Dieu n'y a pas d'axiome en Dieu. Oui.
Même comme esprit?
A fortiori. Mais autrement dit, y a-t-il un axiome du divin? En théologie naturelle, y a-t-il un axiome? Alors, la seule chose que vous pourriez dire, c'est qu'en Dieu, tout ce qui est intelligible est, existe. Est-ce que c'est un axiome? Le propre du divin, c'est d'impliquer qu'il n'y a plus d'intelligibilité. Dieu, acte pur. Donc c'est la suppression de l'axiome. Dieu est celui en qui il n'y a pas. tu es celui en qui l'être, l'intelligence, la volonté ne font qu'un. Mais qui n'a plus de domaine d'action. Oui.
Le vivant, ce serait pas. Le vivant est mesure de toute chose.
Quoi?
Le vivant est mesure de toute chose. Est-ce qu'on peut apprendre la mesure?
Et mesure de toute chose, vous diriez. Et c'est cet aspect de transcendance. Oui. Cet aspect dépassement du vivant. C'est très intéressant à rechercher. Hein. Bon.
La philosophie de la nature, est-ce qu'il n'y aurait pas le principe de non-régulation là?
Ce serait ça.